Alors, il m'a été demandé de parler des infections, de l'infection à VIH en Afrique. Quelle est la situation actuelle? Vous le savez, le VIH a 30 ans. Ça fait 30 ans que donc, cette infection existe. Donc, c'est une infection adulte et qui pose un véritable problème de santé publique parce que les conséquences sont graves. Le VIH a eu un impact négatif sur l'économie des pays et continue d'avoir donc, cet impact. Et sur le système de santé, les systèmes de santé étaient surpeuplés à cause donc, des nouvelles pathologies, des infections opportunistes, une diminution de l'espérance de vie, une dévastation des ménages. Et surtout, chez les enfants, nous avons vu que les enfants sont restés orphelins et il y en a qui ont eu des troubles, des perturbations au niveau scolaire. Alors, c'est l'une des infections qui a bénéficié d'une forte mobilisation. Je dirais que tous les pays dans le monde ont été concernés, se sont mobilisés pour arriver à bout à cette infection. Et plusieurs stratégies ont été adoptées. Les stratégies pour prévenir l'infection à VIH, pour traiter cette infection et pour faire une prise en charge et de soutien aux malades infectés par l'infection à VIH. L'Afrique subsaharienne demeure la région la plus touchée par l'épidémie du sida dans le monde. Et voilà, justement, il faut répondre à quelle question. Quelle est la situation à ce jour? Alors, nous avons vu tout à l'heure la carte du monde. Aujourd'hui, en 2013, enfin, je vous dis que les derniers résultats, les derniers points, les estimations qu'on a eues en 2013 montrent que 35 millions de personnes sont infectées par l'infection à VIH et 24,7 millions sont issus de l'Afrique subsaharienne et on comprend que ça représente environ 70% des cas de sujets infectés par le VIH. Et chez les enfants, on note en 2013 3,2 millions d'enfants infectés de moins de 15 ans et l'Afrique subsaharienne notait 2,9 millions, soit environ 90% des enfants infectés par l'infection à VIH. Alors donc, on se rend compte qu'il y a une inégalité de répartition de cette infection. On comprend bien, vous voyez en bleu la première colonne donc, sur cette diapo, que l'Afrique, je l'ai déjà dit, paie la plus lourde tribu de cette infection. Alors au niveau même de l'Afrique, il y a aussi une inégalité de répartition. Et la prévalence, vous pouvez constater, dans les zones foncées, donc les pays de l'Afrique du Sud, sont les plus touchés. Ensuite viennent les pays de l'Est et l'Afrique centrale avec un point d'honneur, je dirais, au Gabon. Et l'Afrique de l'Est, la Côte d'Ivoire est le pays le plus touché dans cette zone. Et bien sûr l'Afrique du Nord qui en trouve des rares cas et qui ne sont pas beaucoup plus touchés. Alors, l'infection à VIH évolue, on peut le constater. Depuis 2001, sur cette courbe, on se rend compte que chaque année, il y a des nouveaux. Soit peut-être dû au fait qu'il y a une rétention à cause des ARV, mais ce qui apparaît clairement sur cette courbe, c'est que chaque année, il y a des nouveaux infectés dans le monde. Alors, ces nouveaux, on peut le constater, en 2013, par exemple, il y a eu 2 100 000 personnes qui ont été nouvellement infectées, dont 1,5 million en Afrique subsaharienne. Chez les enfants, ce sont 240 000 enfants qui ont été infectés, et dont 210 000 issus de l'Afrique subsaharienne, soit environ 90% des cas. Le VIH touche les tranches d'âge les jeunes adultes, les adultes jeunes et les adultes, donc comme vous pouvez le constater en orange ici, ce sont les adultes jeunes, sont ceux qui sont VIH sur la population générale, donc sur cette pyramide. Et bien sûr, cela a un impact, puisque les adultes jeunes constituent la force de travail et la force de procréation. Il va sans dire que ces adultes jeunes qui sont touchés vont avoir, cela va avoir un impact considérable sur l'économie des différents pays, sur la force du travail. Et puis, bien sûr, ça va entraîner des dépenses très élevées, parce que si le VIH est gratuitement, les ARV sont gratuits, Et les infections opportunistes sont aux charges des malades, donc ça a un coût. Et puis les funérailles en Afrique, ça ne manque pas. Presque tous les week-ends, maintenant, nous sommes dans les villages pour aller voir les parents. Et vous pouvez avoir dans un village, vous avez 3 à 4 bâches dressées pour faire des funérailles, pour dire qu'il y a des dépenses liées à cela. Et sans oublier le risque majeur, la stigmatisation. Pour certains, et je dirais pour la population de façon générale, se disent que l'infection à VIH est due à c'est transmise essentiellement par les rapports sexuels. Donc, pour ceux qui sont infectés, on pense que ce sont des personnes qui ont eu une mauvaise vie. Et donc, dès que vous avez l'infection à VIH, vous êtes stigmatisé, vous n'avez plus votre dignité et vous êtes rejeté plus ou moins par la population. Alors, au niveau de la répartition de sexe, c'est que le VIH touche davantage les femmes. Au début, c'était les hommes qui étaient les plus touchés, mais aujourd'hui, 60% des personnes qui vivent avec le VIH en Afrique sont les femmes. Et le continent compte près de 80% des femmes vivant avec le VIH dans le monde. Et puis, ce sont les jeunes femmes qui sont touchées. Comme vous pouvez le constater ici, sur cette courbe, et plutôt sur cette diapositive, il s'agit des femmes de façon globale dans le monde entier, et en bleu, ce sont les femmes d'Afrique. Donc, 80% de toutes les femmes qui sont infectées dans le monde sont issues de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, voici les différentes répartitions pour certains pays des pays du sud de l'Afrique, et on se rend compte en bleu, ce sont les femmes, en vert, ce sont les hommes, et on se rend compte que presque dans tous les pays, je dirais dans tous les pays, les femmes sont plus touchées que les hommes. En Afrique de l'Ouest, nous avons la même remarque. En rouge ou orange, c'est des hommes. Et en jaune, il s'agit des femmes. Donc, il y a là encore les femmes qui dominent dans cette infection. Alors, pourquoi les femmes dominent dans cette infection? Il y a d'abord la vulnérabilité anatomique. Et au cours de l'acte sexuel, il a été démontré clairement que lorsque une femme a des rapports avec un homme qui est infecté, elle court un risque deux fois plus grand que lorsque c'est le sens contraire, c'est-à-dire la femme infectée vers l'homme. Et sans oublier que l'Afrique a une particularité, il y a la sexualité sous contrainte, il y a la sexualité transactionnelle, c'est un pays pauvre, donc les jeunes filles sont obligées de se livrer à des actes pour pouvoir bénéficier de quelques sous pour leur entretien. Et sans oublier le poids de la tradition, les difficultés à négocier ou imposer une protection par rapport au rapport sexuel. Vous avez des partenaires, la femme peut avoir des co-épouses et elle est obligée d'accepter tout parce que le mari, il est tout puissant. Et lorsque nous regardons la répartition selon l'âge avec le sexe, on se rend compte que ici sur cette courbe, que les femmes sont en orange, sont précocement plus touchées, donc à partir de 16-18 ans, elles sont plus touchées que les hommes, et les hommes c'est à partir de 24 ans. Et les explications que nous avons reçues, c'est que en général, les hommes de 24 ans, donc ces différents âges, ont des rapports avec les filles de 17-18 ans. Et ce n'est jamais une fille de 18 ans qui va avoir un rapport avec un homme de 18 ans. Donc, il y a toujours un décalage d'âge de 5 à 10 ans. Et c'est clair que celui qui est ici à 24 ans ou 23 ans va avoir des rapports avec celui de 18 ans. Et on comprend aisément que les femmes sont plus précocement touchées. Et cela presque dans tous les pays, parce que j'ai pris une courbe de l'Afrique, la partie sud de l'Afrique, et une courbe de l'Afrique centrale, du Cameroun, et qui montre presque les mêmes allures. Alors, le sida continue de tuer. C'est vrai, on a vu tout à l'heure, il y a toujours une forte mortalité. Aujourd'hui, en 2013, je dirais, pour ces derniers chiffres, on notait 1,5 million de décès par an, dont 1,1 million issus de l'Afrique subsaharienne. Chez les enfants, on notait en 2013 190 000 et cas de décès, dont 180 000, plus de 90% issus de l'Afrique subsaharienne. Et lorsque nous regardons l'Afrique de façon globale, les répartitions de la mortalité sont inégales aussi. Et les pays fortement touchés par le VIH ont les plus forts taux de décès. Alors, lorsqu'on regarde, donc voici à peu près la situation de l'Afrique, mais lorsqu'on regarde ces chiffres, peut-être que c'est alarmant pour certains, mais pour ceux qui ont connu l'infection à VIH, qui ont vu depuis 30 ans, qui ont vu l'évolution, vont dire que je pense qu'il y a, ça commence à aller. Et c'est pourquoi il est important de parler de la riposte au VIH et qui, je l'ai dit au départ, que tout le monde entier s'est mobilisé lorsque l'infection est survenue. Il n'y a pas de pays qui soit resté indifférent. Tous sont mobilisés et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plusieurs actions qui ont été menées dans le monde entier et vous voyez un peu les interventions majeures, de sorte que nous sommes passés en 1986 de 100 millions de dollars investis pour la lutte contre cette infection à 19,1 milliards de dollars, pour dire qu'il y a eu beaucoup d'interventions et cela avait pour objectif de prévenir de nouvelles infections, de prolonger et améliorer la qualité de vie des personnes affectées par le VIH, de réduire l'espace économique, enfin l'impact économique plutôt, et social de cette épidémie. Et bien sûr, il y a eu plusieurs initiatives. Il y a eu, par exemple, la prévention de la transmission sexuelle du VIH, l'usage du condom, l'éducation sexuelle, donc la fidélité, un monopartenaire, et puis le traitement des infections sexuellement transmissibles, la circoncision, et qui était une nouvelle révélation qui a montré que les hommes qui n'étaient pas circoncis avaient le risque de faire plus l'infection à VIH. Le dépistage actif et la prise en charge des sujets infectés, les programmes de prévention pour les groupes à risque, les sujets à risque, tels que les sujets qui prennent la drogue, qui s'injectent de la drogue, ou les femmes prostituées, puis la prévention de la transmission par la transfusion sanguine, le traitement ARV, qui est un élément important, et puis la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Et sur ce point, puisque les enfants, lorsqu'on nous avons les enfants qui sont atteints de VIH, c'est avec beaucoup de pitié que nous regardons ces enfants. Donc je voudrais insister un peu pour dire que les enfants peuvent être atteints presque au cours, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et même pendant l'allaitement. Et si rien n'est fait, le risque varie de 20 à 45%. Alors donc, il y a eu des stratégies qui ont été mises sur pied, prévenir une prévention primaire de l'infection à VIH, et prévenir les grossesses indésirées, prévenir la transmission de la mère à l'enfant, et puis traitement adapté, bien sûr, selon la grossesse, enfin le taux de CD4 chez la femme. Aussi, nous avons intensifié les ARV, la prescription des ARV, comme vous pouvez le constater sur cette courbe, les ARV ont été prescrits et de façon progressive, on a plus de nombres qui sont pris en charge sous ARV. Et sur cette courbe, en 2012, on avait environ 10 millions de personnes qui sont sous ARV et dont 9,7 millions, environ 90%, étaient issus de l'Afrique subsaharienne. Alors, quel a été, ou bien quels ont été l'impact de cette riposte? Alors, sur l'évolution de l'infection à VIH, vous pouvez constater en bleu, c'est l'évolution de façon globale, et en orange, juste en bas, c'est en Afrique subsaharienne. C'est vrai que ça continue de croître, mais si on se rend compte, si on regarde bien, depuis 2000, nous avons une baisse, une petite inflexion donc, de l'évolution de cette courbe. Et au niveau des nouveaux cas, ça croît. Et bien sûr, jusqu'à 2000, et puis vous voyez que depuis ces ripostes, ces différentes actions, on commence à avoir une baisse progressive des nouveaux cas infectés. Et la mortalité aussi a connu une diminution depuis 2000, pour dire que l'évolution... Enfin, cette riposte a eu apporté des fruits au niveau de toute l'Afrique. On peut constater ici par la mortalité, presque il y a eu une baisse de la mortalité dans tous les pays africains. Au niveau de la survie, l'espérance de vie, alors on se rend compte que dans les années 2000, vous voyez sur cette courbe, presque tous les pays fortement atteints par le VIH avaient une espérance de vie très faible, jusqu'à 40-43 ans la moyenne. Et après 2010, on commence à voir une ascension. Et je pense que cela est dû à la riposte mondiale contre l'infection VIH. Et cela aussi chez les enfants. Il y a eu une diminution de la transmission mère à l'enfant. Alors ici, sur cette diapo, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que selon les guidelines de 2010, on pensait que la mortalité allait baisser, mais voici la lutte qu'on donnait à cette mortalité. Et puis en 2011-2012, on écrit un autre et on se rend compte que la mortalité décroît, de façon plus remarquable que ce qu'on avait cru depuis 2010, pour dire que les traitements font plus de merveilles qu'on ne pouvait le croire. On peut donc dire que tout marche bien, tout marche comme sur du billard pour les pays africains. Et voilà, parce que lorsque nous regardons le taux, l'accroissement des ARV, des malades qu'on met sous ARV, on se rend compte que chaque année, on a une augmentation. Et voilà, ici, on le sent plus. Et voilà cette augmentation sous ARV. Et jusqu'en juin 2014, on avait les chiffres. On est passé de 2012, de 10 millions à 13 millions de personnes qui bénéficient donc des ARV, pour dire que l'accroissement des ARV ne cesse de croître. Et plutôt la mise des malades sous ARV ne cesse de croître. Il y a donc un succès dans la prise en charge du VIH dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, un succès en Afrique subsaharienne. Cependant, des insuffisances demeurent. Alors, il y a donc des défis à relever. Ces défis, c'est d'assurer la durabilité des financements, accroître la couverture, réduire la mortalité et la morbidité liées ou non à l'infection VIH, améliorer la rétention des patients, combler le déficit en ressources humaines, renforcer, développer et valoriser la recherche. Donc, voici les défis que l'Afrique doit relever parce que, on va le voir tout à l'heure, au niveau de la couverture de l'infection, et plutôt la couverture ARV, voici à peu près ce qu'on note. Sur 100 malades enregistrés VIH, il y a 51 seulement qui sont dépistés et 32 sont mis sous traitement ARV. Et lorsque on essaie de voir la charge virale, il n'y a que 24%. En réalité, ce sont ces 24%-là qui, vraiment, c'est sur eux qu'on peut dire qu'on a, on a un impact considérable sur l'évolution de cette infection. Pour dire que c'est faible sur 24%, c'est vraiment faible. En 2013, sur environ 28 millions de personnes infectées, seulement 34% ont bénéficié des ARV, ce qui est faible. Et ces 24% sont constitués de 38% d'adultes et 24% d'enfants. Alors, chez la femme, puisque un axe majeur de la lutte contre le VIH, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Et comme nous pouvons le constater sur ces deux figures, ici, c'est les femmes qui sont au cours de la grossesse et puis au cours de l'allaitement. On se rend compte que environ 38% des femmes au cours de la grossesse VIH positive ne bénéficient d'aucune prévention. Et cela veut dire que les enfants ont un risque majeur d'avoir le VIH au cours de la grossesse. Et pendant l'allaitement, plus de 50% des femmes ne bénéficient pas de prévention. Je dirais qu'il n'y a pas un traitement préventif où les femmes ne sont pas mises sous ARV, donc un risque élevé de faire de transmettre le VIH à leurs descendants. La couverture diffère d'une région à une autre. La région du sud de l'Afrique et de l'Est, nous sommes à 59%. Et la région de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à 79% et l'Afrique du Nord à 89%, soit un total de 66% ou l'Afrique. Et lorsque nous voyons la répartition selon les langues parlées, voici les pays francophones, la répartition dans les pays francophones, et puis les pays qui parlent l'anglais, vous allez constater que dans les pays francophones, seul le Burundi a plus de 50% de couverture ARV, et alors que dans les pays anglophones, il y a plus de pays qui dépassent les 50%. Et ceux qui dépassent 80%, l'Afrique du Sud, Botswana et Swaziland qui dépassent 80%. Le deuxième défi ou l'insuffisance qu'on doit relever, c'est la rétention des malades dans le circuit. Et vous savez que la prise en charge de l'infection à VIH, c'est un traitement à vie. Et donc, il faut maintenir ces malades sous traitement. Et voici un peu sur cette figure, on se rend compte qu'à un an, il y a 86%, et à 2 ans, 82%, à 5 ans, 72%, donc ça baisse régulièrement. Et à 5 ans, lorsque nous regardons, certains pays même n'ont pas plus de 50% sous ARV. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de perdus de vue. Cette répartition, selon les pays, bien sûr, les langues parlées, et voici à peu près ce que, en vert, c'est ceux qui ont plus de 80% de rétention. Et on se rend compte aussi que les pays francophones n'ont pas de très bonnes mesures de rétention. Alors, le troisième défi, c'est le financement. Nous avons essayé de voir quel était l'apport de chaque pays dans la prise en charge, l'apport local dans la prise en charge de l'infection VIH. Et vous pouvez le constater sur cette courbe que 63% dans les pays francophones apportent moins de 10% pour la prise en charge de l'infection VIH contre 25% dans les pays anglophones. Et lorsque nous prenons la carte de l'Afrique, nous voyons un peu ce que chaque pays apporte. Il y en a qui sont à 1%, la Côte d'Ivoire à 7%, et voilà notre pays. Et à 80%, il y a deux pays. Il y a l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc ceux qui participent à plus de 50% sont d'environ 24,4%. Alors d'où vient le reste des fonds? Voici la répartition de l'apport international. 66% est apporté par le gouvernement américain. Après, 17% par le Fonds mondial et puis les autres, le reste. Et le PEPFAR apporte plus de 24 milliards pour le VIH-SIDA. Mais regardez la répartition. 87% dans le pays anglophone et 4% dans le pays francophone. Le Fonds mondial apporte environ 9 milliards, dont 51% dans le pays anglophone et 39,4% dans le pays francophone. Et je crois qu'il y a eu donc des réactions. Bien sûr, il y a eu ce qu'on appelle l'accord d'Abuja qui invite les pays riches à tenir leurs promesses et de ne pas mettre tout sur au dos de la crise. Mais les pays en voie de développement doivent aussi participer au moins à 15%, c'est ce qui a été conclu. Alors on s'est demandé qu'est-ce que les pays du tiers-monde avaient pour relever ce défi de 15%. Et voilà ce qui a été proposé. La taxation sur l'alcool, sur le tabac et bien sûr sur d'autres éléments. Alors ici, on s'est dit que ce n'est pas des éléments fiables, d'autant plus que nous luttons contre le tabagisme et l'alcoolisme, bien sûr. Donc s'il y a une baisse de la consommation du tabac, il va sans dire que si nous comptons sur ça, nous n'allons pas voir rentrer dans les fonds. L'implication des entreprises, c'est bon. Le fonds de solidarité Et ici, la production locale des ARV, c'est vrai que l'Afrique du Sud a déjà bien commencé, mais dans les autres pays, je pense que pour produire les ARV, il faut une infrastructure lourde, ce qui nécessite beaucoup de moyens. Ça n'a pas encore commencé, je ne sais pas quand ça va commencer. Alors ce qu'on craint, ce que nous risquons d'arriver ici, à ce stade, c'est-à-dire que je n'ai rien contre cette marque, c'est peut-être une très bonne marque, mais si les pays développés enlèvent ce qui nous permet de rouler, nous allons bientôt stationner. Alors ce que je peux retenir en conclusion, c'est qu'il y a une baisse significative des nouvelles infections depuis 2001 en Afrique subsaharienne, un progrès réel dans la prise en charge, je crois qu'il y a une faute ici, de l'infection à VIH, mais non suffisant. Il faut favoriser l'accès aux ARV à tous les malades des pays pauvres, augmenter le soutien, surtout le soutien national pour la prise en charge des malades vivant avec le VIH. Et avant de terminer, je voudrais que chacun interprète cette image. Et dans un village où il y a beaucoup de VIH, le VIH a entraîné beaucoup de désordres. Qu'est-ce que vous pensez ? Je vous remercie.